Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est de cette manière que s'ouvrait l'épître de saint Paul d'aujourd'hui, tirée du chapitre 15 de cette épître aux Romains, et que nous allons répéter pendant cette journée, bien sûr, à travers les différents capitules des heures de l'office. Quicumque scripta sunt. L'apôtre saint Paul a été confronté dans sa carrière d'apôtre à certaines divisions entre les chrétiens qui venaient du judaïsme et les chrétiens qui venaient des nations. Et cette partie de l'épître aux Romains fait écho à cette réalité. Et donc il rappelle que tout ce qui a été écrit, donc toute la Sainte Écriture, a été écrit pour notre instruction, pour l'instruction de tous, pour l'instruction à la fois des juifs et à la fois des gentils. Tout ce qui a été écrit, quicumque scripta sunt, pour nous cela désigne non seulement l'Ancien Testament qui était là pour préparer la venue du Messie, et le peuple juif n'a été choisi que pour favoriser, préparer cette venue du Messie, et donc le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, étant venu, eh bien, il n'est plus nécessaire d'avoir cette prééminence, ce choix d'un peuple, le nouveau peuple de Dieu, le peuple de l'Église. Chaque homme peut en faire partie, bien entendu, et donc les juifs et les gentils sont appelés à faire partie de ce même peuple. Il n'y a plus de différence. C'est un des messages de l'apôtre saint Paul en creux, hein, dans cette épître et d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits. Donc tout ce qui a été écrit, Ancien, Nouveau Testament, l'a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit, cela ne met pas de côté ce qui s'est transmis autrement que par la Sainte Écriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tradition orale. Hein, par exemple, un certain nombre de vérités se sont transmises par transmission purement orale avant d'être mis par écrit et pas dans les Saintes Écritures. De même, le canon des Saintes Écritures, nous savons ce qu'il faut croire comme étant révélé par Dieu, comme faisant partie de la Sainte Écriture, parce que nous avons l'autorité de l'Église. Donc les protestants ou autres sectes du même genre, ils ne sont pas capables de dire pourquoi, en réalité, ils choisissent tel ou tel texte comme faisant partie de la Sainte Écriture. Ils ne sont pas capables de justifier cela. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des passages de l'Écriture Sainte qui les dérangent, ils vont les considérer et les rejeter comme n'étant pas des choses faisant partie de la Sainte Écriture, même si elles ont été reconnues comme telles pendant tous les siècles précédents, donc par rapport aux protestants, pendant 1500 ans, et au-delà d'ailleurs par le peuple juif, justement, ont été reconnus comme faisant partie de la Sainte Écriture, de la révélation divine. Mais les protestants, ils savent toujours mieux que tout le monde, et ils savent donc ce qui est révélé par Dieu et ce qui ne l'est pas, de même que chacun d'entre eux est éclairé par le Saint-Esprit pour savoir ce que signifient les Saintes Écritures. Sauf que si c'était le cas, on ne verrait pas les protestants se déchirer entre eux, au niveau doctrinal, si le Saint-Esprit éclairait chaque protestant, Luther comme Calvin, comme Melanchthon ou autre tordu de service, eh bien, il ne se contredirait absolument pas, parce que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Donc, vous voyez que radicalement, il y a un problème. Ce problème, nous ne l'avons pas, parce que nous savons ce qui a été écrit, parce que l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ce qui a été écrit. Quicumque scripta sunt, nous le savons, c'est le canon des Saintes Écritures tel que la Sainte Église catholique l'a toujours reconnu. Et en dehors de ça, il y a des vérités qui sont transmises de manière orale, qui aujourd'hui, bien sûr, ont été écrites et transmises de par écrit, notamment chez les pères de l'Église et dans l'enseignement de la Sainte Église. On pense, par exemple, au dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie qui ne se trouve pas dans la Sainte Écriture. Donc, la base de notre vie chrétienne, c'est effectivement la Sainte Écriture telle qu'elle a été transmise par l'Église. Et pourquoi, dans quel but il y a la Sainte Écriture? L'apôtre nous le dit, le but premier, c'est ad nostram doctrinam, c'est-à-dire pour notre enseignement, pour nous enseigner. Donc le but de la Sainte Écriture, ce n'est pas de satisfaire notre curiosité, hein, la fameuse curiositas qui s'oppose à la studiositas, la vertu de studiosité qui consiste à étudier les choses correctement, tandis que la curiosité qui consiste à picorer à droite et à gauche sans vraiment étudier. On prend finalement ce qui nous plaît et surtout on cherche à savoir des choses qu'on n'a pas nécessairement à savoir et qui ne seront pas utiles. Bien sûr, dans le monde actuel où chacun a accès pratiquement à toute information ou fausse information, à toute vérité ou mensonge à travers le monde, à travers vos petits téléphones, eh bien, la curiositas, la curiosité est éminemment favorisée. Il faudra donc, en tant que chrétien, nous réformer par rapport à cela. Et vivre selon les préceptes de l'Évangile et selon la mentalité qui nous est donnée ici par l'apôtre saint Paul. Nous verrons justement dans quel but nous avons cet enseignement. Deuxième problème, deuxième question, c'est que si les Saintes Écritures sont données non pour satisfaire notre curiosité, quand est-ce que ce sera la fin du monde, qu'on sera débarrassé de tous ces méchants de la terre, etc. Attention de ne pas en faire partie, bien entendu. Eh bien, c'est pas le but de la Sainte Écriture. C'est notre enseignement. De même, est-ce que la Sainte Écriture a pour but de favoriser ou de toucher nos passions, hein, ces fameuses passions de l'âme, la peur, l'amour, la crainte, etc., qui sont des réactions naturelles, à la fois corporelles et psychologiques, à tel ou tel stimulus. Ces passions que nous partageons avec les animaux les plus développés, je doute que les moules, les limaces ou les huîtres, c'est de saison, n'est-ce pas, aiment quelque chose, mais bon, ils ont une vie assez basique. Mais les animaux les plus développés, les chiens, les chats, eh bien, ont ces passions. Donc, le but de la Sainte Écriture, et là encore, malheureusement, un certain nombre de personnes, de prêtres ou autres, détournent notre sainte religion en instrumentalisant la Sainte Écriture, soit pour satisfaire, soi-disant, parce que ça ne fonctionne pas, la curiosité des fidèles, soit pour les émouvoir dans leurs sentiments. Or, ce n'est pas le premier but de la Sainte Écriture, de nous émouvoir dans nos sentiments. Le but, ce n'est pas de nous faire peur. Le but, ce n'est pas de causer de la haine, de l'amour, de la crainte, etc., dans ce sens de passion. Le but, c'est de nous enseigner, c'est-à-dire de parler à notre intelligence. Notre intelligence qui consiste, qui a pour but de connaître des vérités et non pas de ressentir. Donc d'abord l'intelligence. Régulièrement, je vous le rappelle et il le faut pour vous rappeler notre nature humaine. Notre nature humaine, elle est faite comme cela. D'abord, nous avons une intelligence. Ensuite, nous avons une volonté. Ensuite, nous avons des passions corporelles. Nous avons un corps. Mais d'abord, nous sommes esprit. Et notre esprit, c'est d'abord notre intelligence. Donc, le but de l'enseignement de la Sainte Écriture, le but de l'enseignement de la Sainte Église, c'est d'abord d'éclairer notre intelligence. C'est d'abord de parler à notre intelligence pour nous faire connaître ce qu'il faut croire, les vérités qu'il faut connaître pour notre salut, puisque c'est le but ultime. Le but ultime est évidemment notre salut, et donc quand l'apôtre saint Paul dit « tout ce qui est écrit pour notre enseignement, pour notre instruction », c'est un but intermédiaire, ce n'est pas une fin en soi. Donc là aussi, il pourrait y avoir des personnes désordonnées qui ont une connaissance purement spéculative de la foi catholique, mais qui ne vont pas dans la pratique. Alors là, ce serait aussi un problème, n'est-ce pas ? Puisque, là encore, si nous avons une intelligence, nous avons aussi une volonté pour agir. Mais notre volonté, elle ne pourra connaître le bien et aller vers le bien que si elle sait quel est ce bien. Nos passions ne pourront être ordonnées, notre crainte, notre haine, notre amour, etc., qui ne sont pas mauvais en soi, ne pourront être ordonnées que si nous avons une foi qui est saine. Donc, il ne faut pas chercher dans la Sainte Écriture, dans l'enseignement de l'Église, une satisfaction de notre sentiment religieux, une satisfaction de nos passions. Il faut chercher à connaître la vérité. Et la vérité, bien sûr, tout ce qu'il y a dans la Sainte Écriture à connaître, l'Église nous l'a transmis, notamment à travers ses catéchismes, hein, et donc transmis, explicité. Par conséquent, on le dit hein, régulièrement, les personnes qui se convertissent, je vais lire la Bible, elles ont commencé par le catéchisme, parce que dans le catéchisme, vous avez un vrai catéchisme, un bon catéchisme, vous avez tout ce qu'il y a dans la Bible. Tout ce qu'il y a d'essentiel dans la Bible se trouve dans le catéchisme, mais se trouve clairement explicité, sans les zones d'ombre, sans les contradictions apparentes parfois dans la Sainte Écriture, sans les développements qui ne sont pas absolument nécessaires à notre salut, tout se trouve dans les catéchismes. Donc notre enseignement, c'est dans l'enseignement de l'Église qu'il faut aller le chercher. Alors, l'apôtre saint Paul continue, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est bien choisi, et l'Église fait toujours bien les choses pendant ce temps de l'Avent, qui est un temps pendant lequel nous devons pratiquer particulièrement cette vertu d'espérance. Par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Voilà ce qui va ressortir de cette connaissance des vérités révélées par Dieu. La patience, la consolation. Attention, la consolation dans le sens proprement latin du terme, et n'a pas ce sens immédiat et nécessairement de consolation sensible. La consolation, c'est en même temps l'aide de Dieu. Et la consolation, c'est le fait d'être réconforté par le bon Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Sainte Écriture nous dit ce qu'il faut croire, nous dit ce qu'il faut faire. Et cela est exigeant. Cela demande de la patience. C'est-à-dire, cela demande d'accepter la souffrance. Parce que c'est ça, la patience, per patientiam. Nous avons tendance à avoir une vision assez étriquée de la patience, alors que le terme de patience, c'est pas juste ne pas s'impatienter quand on attend quelque chose, etc. C'est vraiment supporter toutes les épreuves de la vie. C'est vraiment supporter dans la durée tous les poids que nous impose le bon Dieu pour aller vers lui, notamment les commandements de Dieu. Bien sûr, ce sont des poids qui nous sont imposés. Bien sûr, les commandements ne sont pas toujours faciles à pratiquer au quotidien. Cependant, si on ne les pratique pas, on n'obtiendra pas le but, on n'obtiendra pas la fin. Et on ne pratique pas l'espérance dont parle l'apôtre saint Paul, parce que, justement, c'est par la patience et la consolation des Saintes Écritures que nous avons l'espérance. L'espérance de quoi ? L'espérance de la gloire dans l'autre monde. L'espérance, justement, que notre vie ici-bas n'est qu'un passage et n'est que temporaire. Que nous sommes appelés à une vie supérieure, à la vie éternelle. C'est aussi ce qui ressort des Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Et pour cela, il faut pratiquer la patience. Et en même temps, c'est une consolation. Nous le dirons la semaine prochaine, nous le chanterons avec cette éclaircie dans le temps de l'Avent, le dimanche en rose, qui nous invite à la réjouissance, eh bien, parce que nous sommes ordonnés justement à la béatitude, parce que nous savons que notre but, il est au-delà de ces réalités tristes que nous pouvons traverser. Il est au-delà de toutes les souffrances que nous pouvons endurer ici-bas, que ce soit les souffrances physiques, que ce soit les souffrances morales, psychologiques, les efforts que nous devons nous imposer pour obéir aux commandements de Dieu. C'est assez terrible aujourd'hui d'entendre des chrétiens se dédouaner de péché en disant qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Si, on peut toujours faire autrement. Pourquoi ? Parce que si c'est contre la foi et les mœurs, on peut faire autrement. On peut faire autrement. On a une volonté, on a une intelligence. Personne ne nous force à faire des choses qui sont contre la foi et les mœurs. Personne. C'est un choix, en réalité, que nous faisons. Et nous faisons le choix de la facilité. Nous ne faisons pas le choix de la patience, c'est-à-dire de la souffrance, de supporter des situations qui sont difficiles, effectivement, à supporter. Donc il faut être conscient. Il faut arrêter de se dédouaner. Ça, c'est le monde, effectivement, dans lequel nous vivons. Un monde qui ne veut pas reconnaître ses responsabilités. On entend toujours les politiques prendre ses responsabilités, etc. Ils nous saoulent littéralement avec cette expression, effectivement. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons ce que c'est. C'est la responsabilité de notre salut, c'est la responsabilité de notre âme. Par conséquent, eh bien, il faut souffrir pour que notre âme soit belle. Il faut renoncer à de nombreuses facilités pour que notre âme reste belle devant Dieu. Il faut renoncer à nous-mêmes, finalement, pour pouvoir aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les Saintes Écritures sont là, pour nous donner la direction, et bien sûr avec l'enseignement de l'Église, et en même temps nous donner la consolation. La consolation, c'est que tout ce que nous faisons ici-bas, tout ce que nous supportons ici-bas, tous les renoncements d'ici-bas, ils nous mènent quelque part. Ils nous mènent vers le bon Dieu. C'est pour ça que l'apôtre conclut en disant « Spem habeamus ». Nous avons l'espérance. L'espérance du salut et en même temps l'espérance que le bon Dieu lui-même nous donne tous les moyens. Parce que nos pauvres forces face aux tentations du monde, du démon, de notre propre faiblesse, effectivement, cela est une réalité. Mais Dieu ne nous demande pas des choses au-dessus de nos forces. Si Dieu commande quelque chose, c'est que nous pouvons et que nous devons le faire. Si Dieu nous commande quelque chose et nous promet la béatitude éternelle, ça veut dire aussi qu'il nous donne les moyens surnaturels pour pratiquer cette patience, ces renoncements, pour obéir à ses commandements. Donc, il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. Aucune. Il n'y a aucun commandement de Dieu qui ne soit impossible à accomplir. Parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu, il est sadique, il demande des choses impossibles et il ne veut pas que nous soyons sauvés. Et ça, bien entendu, ça va contre la bonté, la miséricorde divine. La Sainte Écriture aussi nous montre... Dans ce plan, nous montre ce plan divin, pardon, et la fidélité de Dieu. Tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. C'est une constante absolue dans la Sainte Écriture. Donc, pourquoi Dieu changerait aujourd'hui? Pourquoi il nous aurait promis le salut moyennant l'adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Sainte Église, l'observance des commandements, la pratique des vertus chrétiennes, pourquoi il nous promettrait le salut, mais sans nous donner les moyens? Évidemment, cela est absurde. Donc, nous avons l'espérance. Et l'Église a merveilleusement résumé ces vérités dans l'acte d'espérance. Voilà pourquoi nous devons réciter souvent ces actes qui nous viennent de la Sainte Église, l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité, l'acte de contrition, parce qu'ils vont exprimer vraiment la substantifique moelle de ces réalités. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde. C'est clair, c'est exactement ce que dit l'apôtre saint Paul. On espère avec une ferme confiance la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Nous avons ces deux éléments, hein, la grâce en ce monde, le bonheur éternel dans l'autre. Pourquoi? Quel est le motif de notre espérance? Parce que vous nous l'avez promis et que vous êtes fidèles à vos promesses. À chaque fois que nous péchons, bien sûr, il y a un manque de charité, d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous aimons plus quand nous péchons que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il y a aussi un manque d'espérance, parce que nous comptons plus sur les choses de ce monde que sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons plus des réalités de ce monde, des bonheurs de ce monde, des consolations de ce monde que sur les consolations qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout la consolation éternelle de vivre avec lui dans la gloire. Donc mes bien chers frères, pendant ce temps de l'Avent, veillons à pratiquer mieux au quotidien cette vertu d'espérance et la pratiquer mieux, c'est mieux vivre en conformité avec notre Seigneur Jésus-Christ, en conformité avec ses commandements et pratiquer cette espérance dans nos prières, pratiquer cette espérance dans notre lutte contre le péché. Tous les moyens nous sont donnés pour nous sanctifier. Prenons ces moyens au quotidien et cessons de nous dédouaner en disant « nous ne pouvons pas faire autrement ». Quand nous paraîtrons devant notre Seigneur Jésus-Christ, il nous montrera à ce moment-là « tu as choisi cela, mais tu pouvais faire autrement ». Tu as choisi de te détourner de moi alors que tu pouvais te tourner vers moi. Tu as choisi de faire plutôt confiance à toi-même, plutôt confiance aux hommes, plutôt confiance aux réalités terrestres que de me faire confiance à moi. Il nous le montrera et pour notre intelligence, au moment du jugement, ce sera d'une clarté absolue, tellement absolue que nous serons complètement quoi ? Nous ne pourrons plus rien dire. Parce que nous verrons effectivement que nous avions le choix. Le choix nous a été donné et à chaque fois, dans ces circonstances, nous aurons choisi de pécher. Nous aurons choisi de désobéir au commandement de Dieu en se dédouanant, en disant, en trouvant des excuses. Là, nous ne les aurons plus, ces excuses. Et aujourd'hui même, nous ne les avons pas. Parce que nous avons l'enseignement des Saintes Écritures. Nous connaissons la direction, le ciel, le but. Nous connaissons les moyens de l'atteindre. L'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance, bien sûr, l'adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa Sainte Église, l'obéissance au commandement de Dieu, la pratique des vertus chrétiennes, et en particulier de ces vertus de foi, d'espérance, de charité. Donc, ayons une vraie espérance et commençons aujourd'hui à prendre au sérieux notre vie chrétienne. Cessons de nous excuser et au contraire, demandons à Dieu son aide dans les moments les plus difficiles, dans les tentations les plus difficiles, à chaque fois que nous sommes inclinés, amenés à avoir ces idées de nous éloigner de lui, de lui désobéir. Au contraire, revenons à lui, espérons en lui, aimons-le par-dessus toute chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.